L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, une radio qui prend l'alimentation au sérieux, qui la considère dans toutes ses dimensions, exactement comme notre partenaire qui vient une fois par mois. Si vous avez écouté la précédente émission le 18 octobre, vous savez ce qu'est la Convention de Faro. Elle a été adoptée par le Conseil de l'Europe. Alors, c'est une organisation internationale dont le siège est à Strasbourg, qui rassemble 47 États de l'Europe et qui a pour mission de promouvoir la démocratie, protéger les droits de l'homme et l'état de droit en Europe. Et donc la Convention de Faro au Portugal est entrée en vigueur en 2011 pour élargir la notion de patrimoine culturel, par exemple y intégrer les savoir-faire et les pratiques liées à la table. L'Université des sciences et pratiques gastronomiques basée à Quimper milite notamment pour faire vivre ce pan de la culture ô combien précieux. Xavier Hamon, son fondateur, est au micro de Radio Évasion un lundi par mois et il nous amène des partenaires. Aujourd'hui, des enquêtées, peut-être futures enquêtrices. Juliette Clivic, cultivatrice, et Claire Cariou, qu'on connaît sur Radio Évasion. On l'a déjà interviewée parce qu'en fait, elle dirige une association qui s'appelle Côte Ouest et qui vise au zéro déchet. On pourra dire ça comme ça. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu. Alors, on va commencer avec Xavier Hamon pour le contexte de cette enquête. D'où elle vient, pourquoi, comment, de quoi s'agit-il?
Mais vous avez bien fait de rappeler, Véronique, le Conseil de l'Europe, puisque c'est à la suite de leur visite en 2019 qu'ils avaient fait un rapport sur ce qu'on était en train de faire à l'USPG dans le Cap Cisin. Et leur constat, c'était de se dire que si on voulait éviter à terme qu'il y ait des affrontements binaires entre bio, pas bio, conventionnel, pas conventionnel, il était temps de donner la parole aux acteurs qui étaient autour de nous pour qu'ils expriment autre chose que ces visions binaires. Et nous est venue l'idée avec Ginov, un partenaire que je vais présenter juste après, de mettre en valeur, de mettre en évidence d'autres histoires que celles qu'on nous raconte généralement. Et ces histoires, c'est des histoires de jeunes entrepreneurs humanistes. Qui sont des hommes et des femmes qui, sur le territoire de la Cornouaille, essayent d'articuler leurs convictions sur les questions alimentaires notamment et l'esprit d'entreprise, puisqu'ils sont tous entrepreneurs à un degré ou à un autre, et voir comment ils articulent ça avec notre patrimoine qui est commun en Cornouaille. Donc on a fait appel à Ginov, qui est une association qui justement met en avant depuis plus de 10 ans maintenant les initiatives des jeunes, des jeunes dans les univers professionnels, et qui essayent justement d'apporter une autre vision du jeune entrepreneuriat. Alors jeune dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut être jeune entrepreneur si on a créé sa boîte depuis 2 ans, après 50 ans, ça marche aussi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça marche aussi.
Et donc c'est une association nationale ou pas, Ginov?
Ginov qui travaille nationalement, mais essentiellement sur le Grand Ouest et la région parisienne, et qui fait différents travaux. Ils font des enquêtes, mais ils font aussi des accompagnements de collectivités sur des projets d'alimentaire, mais toujours en lien avec l'initiative de jeunes.
Et là, le sujet exact de l'enquête, c'était quoi alors? Et ça allait jusqu'où, en gros, en termes de territoire?
Alors, territoire, c'était la Cornouaille. Mm-hmm. Voilà, sur la Cornouaille, 8 enquêtés sur le territoire de la Cornouaille, sur l'articulation justement de leur métier, de leurs propres convictions et comment ils intègrent leurs convictions dans leur pratique professionnelle, dans un territoire riche en histoire, mais aussi en récits discordants ou dissonants parfois. Et on avait envie de savoir comment ils vivaient tout ça, tout simplement.
Donc il y avait un questionnaire assez long, je suppose. Enfin, c'était
des entretiens de 2 heures environ, avec des questions effectivement sur leur métier, qu'est-ce que c'est que leur métier, comment ils perçoivent leur environnement, donc c'est notre patrimoine commun, et quelles sont leurs inquiétudes ou leurs ambitions dans les années à venir, dans leur démarche.
Alors des enquêtés, ben justement, nous en avons deux. On aurait même pu en avoir une troisième. Juliette Clivic, on commence peut-être avec vous. Donc vous êtes cultivatrice, c'est ça?
Oui, j'ai été maraîchère pendant 4 ans et aujourd'hui je commence une production de fruits, de vergers et à court terme de fruits rouges, de petits fruits.
Et donc, vous avez été enquêtée. Alors comment est-ce que vous avez reçu cette enquête?
Eh bien, comme une chance. Enfin, comme une opportunité de pouvoir poser ma parole comme quelque chose qui compte, en fait, qui soit entendu et pour laquelle on consacre de l'attention. J'ai trouvé que c'était enrichissant parce que ça force à réfléchir sur son métier et à se poser des questions que, par ailleurs, parfois, quand on est en train de faire, on s'abstient de se poser.
Ah oui, par exemple ?
Ben, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le patrimoine pour moi quand je suis en train de faire mon travail ? Je ne me pose pas forcément cette question, en fait, tout simplement. Donc non, c'était une opportunité de regarder ce qu'on fait, de repositionner éventuellement son travail, de lui redonner un sens, de redéfinir en fait ses pratiques et de continuer à tisser son fil rouge en fait, ou tracer son chemin avec les regards aussi croisés des autres enquêtés.
Ah oui, parce que vous avez eu accès aussi aux résultats.
Oui,
on en parlera tout à l'heure. Mais
On a pu découvrir les paroles des autres. Ça aussi, c'était très enrichissant.
Vous avez pu échanger entre vous aussi.
Oui, alors moi j'étais absente à cette réunion de restitution, j'étais en train de démonter une serre, mais sinon oui, on était dans cette perspective-là.
Ah, mais c'est pas grave, vous échangez au micro de Radio Évasion, c'est bien aussi.
Voilà.
Et votre rapport à l'alimentation, bon, vous en produisez certes, mais quel est-il sinon ?
Je considère ça comme évidemment vital, nécessaire, essentiel, quoique on puis s'en douter quand on voit les métiers qui avaient été définis comme prioritaires lors des crises de Covid. Je pense que c'est une urgence de s'intéresser à la façon dont chacun produit sans pour autant être dans une définition assez manichéenne du bien et du mal. Et que c'est dans les rencontres avec d'autres pratiques, d'autres agriculteurs, quand bien même ils sont très très différents de nous, quand bien même parfois nos pratiques s'opposent, et on peut grandir et trouver un sens commun quoi, à ce qu'on fait. Enfin, on l'a déjà, le sens commun, simplement. Il y a quand même beaucoup de nuances quoi, dans les discours.
Vous, par exemple, vous êtes le maraîchage, là, c'était en bio
ouais. Oui. Ouais, moi, je ne concevais pas de faire autrement qu'en bio. Après, voilà, je découvre bien, quand même, en rencontrant d'autres personnes, qu'il y a des facteurs qui sont limitants, parfois, en fait. Enfin, il y a des contraintes qui sont réelles, qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut pas balayer comme ça, en se disant que... L'idée, c'est de faire le plus vert possible sans se poser des questions essentielles sur les itinéraires techniques en fait, auxquels les gens sont confrontés, les agris sont confrontés. Mais pour moi, moi, je savais que ma production, je ne pouvais pas l'envisager autrement. Donc en fait, j'ai orienté ma production de façon à pouvoir travailler en bio.
Mais pour autant, vous vous sentez en commun avec des agriculteurs ou agricultrices qui seraient en conventionnel enfin...
Oui, je pense qu'on a, on a beaucoup plus en commun que des choses qui nous différencient.
Claire Cariou, donc vous êtes votre entreprise, c'est ça, c'est aider les gens à viser le zéro déchet, c'est ça, hein, j'ai pas trahi le.
Oui, c'est ça, à une nuance près, c'est que là, c'est l'association Côte Waste. J'avais lancé une micro-entreprise avant la crise Covid qui a été. L'entreprise a été mise à l'arrêt. Donc là, elle est en pause. Elle fait une petite respiration, elle est partie en vacances et puis elle reviendra. Avec des nouveaux projets. Donc là, c'est énergie totale concentrée sur l'association Côte Waste. Ouais. Mais l'objectif, en effet, c'est bien d'aider, d'inciter le plus grand nombre à réduire les déchets.
Et puis, de toute façon, vous êtes déjà aligné, comme on dit, entre vos convictions et vos activités. Enfin, c'est pareil.
C'est ça. Mais quand on m'a proposé de participer à cette enquête, ma première réponse a été oui, mais vous savez, moi, mon créneau, c'est la réduction des déchets, pas forcément l'alimentation. Bien qu'il y ait un lien. Et donc, en effet, on m'a répondu oui, mais réduire ses déchets fait partie du bien manger, évidemment. Et en effet, il y a un lien très, très fort entre la réduction des déchets et ce qu'on met dans son assiette.
Ah oui, déjà, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, qu'est-ce qu'on achète ? Est-ce que c'est très emballé ou pas emballé ? Enfin, c'est ça.
C'est ça. Et en fait, moins il y a d'emballage, plus on a recours à l'alimentation locale de saison aussi. Plus on se fournit auprès des producteurs et puis dans des réseaux beaucoup plus directs et plus courts. Et donc, ça influence forcément le rapport qu'on a à l'alimentation de manière positive.
Et vous, comment vous avez ressenti l'enquête ?
Moi, ça m'a donné le sentiment de faire partie d'un tout en mouvement ou d'un tout positif. Parce que parfois, quand on va un peu à contre-courant ou quand on va un peu dans des fonctionnements minoritaires, on peut avoir l'impression d'être un peu seul. Et le fait de faire partie d'une équipe de jeunes qui s'engagent localement, ça m'a vraiment donné le sentiment de faire partie d'un mouvement plus global. Et je trouve que ça donne pas mal d'élan à nos actions. Et comme disait Juliette, en effet, ça permet de porter un regard, en fait, de mettre en mots nos actions, notre volonté. Ça permet de faire un pas en arrière et de prendre du recul sur nos propres pratiques. Et on se dit, quand on explique comme ça et qu'on fait la somme de nos convictions et de nos actions, on se rend compte qu'en fait, ouais, c'est quand même pas mal ce qu'on fait. Ouais.
Alors Xavier Hamon, cette enquête, donc c'était pas uniquement les questions alimentaires, hein, c'est ça derrière, mais quel était quand même le lien avec l'alimentation, puisqu'on sait que tout ça est un tout.
En fait, c'était la question de l'engagement qu'on voulait poser. L'université, elle est née de l'expérience de cuisiniers notamment qui ont voulu restituer leur expérience de 10, 15, 20 ans pour certains. Mais une fois qu'on a restitué notre expérience, ça reste vivant cette histoire. Et une des ambitions de l'enquête, c'était aussi de nourrir l'université des expériences des autres qui sont pas les nôtres, et puis pouvoir le décliner soit dans nos formations, c'est-à-dire que de tous les enquêtés, il y a des éléments qu'on a déjà intégrés dans nos formations, en tout cas dans la façon de les aborder.
Alors justement, on veut des exemples.
Ben, par exemple, quand on un des dénominateurs communs de tous les enquêtés, c'était qu'il y avait une exigence professionnelle très forte. Et que finalement, ça, c'est pas négociable. Donc, quel que soit l'engagement, il y a le besoin pour chacun de se fixer des objectifs très forts et de voir comment on y arrive. Ça, c'est un élément qu'on avait déjà, mais qu'on a renforcé encore à l'université. Il y a une dimension aussi dans l'approche globale de l'environnement. C'est-à-dire que leurs activités, quelles qu'elles soient, on avait des récoltants d'algues de rive, on avait une jeune journaliste, on avait aussi une pâtissière. Donc voilà, des univers assez différents.
Mais tous un lien avec l'alimentation.
Tous un lien avec l'alimentation, de près ou de loin. Et il y a une attention très particulière à leur environnement au sens large. C'est-à-dire, comment mon environnement, comment le patrimoine autour de moi est en train d'évoluer, comment il est en train de changer, comment les gens sont en train de vivre autour de moi, comment on prend soin les uns des autres, comment cet environnement il est vécu au sens large. Et il y a énormément de facteurs humains qui ont été réintroduits. Donc moi, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on veut restituer dans les comptes rendus d'université, dans nos communications, dans nos futures publications, comment, en plus du métier, il y a une vraie démarche de prendre conscience de ce qui nous entoure. Juliette le disait très bien, il y a beaucoup plus de points communs qu'on le croit entre un agriculteur conventionnel et un agriculteur bio, mais ça dépend comment on le regarde. Et je trouvais que c'est le résultat de cette enquête nous permet, nous, de restituer ça. Sinon, on est toujours dans des clivages et on est bien dans le domaine de la convention de Faro. Et ça, on l'introduit dans nos formations.
Alors, on va creuser sur les résultats de l'enquête. Mais juste avant, donc les enquêteurs, comment est-ce qu'ils ont ressenti de leur côté l'enquête?
Eh bien, en fait, l'enquête a un côté très intime. Et donc, c'est pas rien, hein, de demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas de se livrer pendant deux heures, parfois un peu plus. Et les enquêteurs ont été très touchés par la confiance qui a été donnée par tous, hein, tous les enquêtés. Et parce qu'effectivement, même si au départ, la question peut surprendre, on peut se demander en quoi on est concerné par cette enquête-là. Et en fait, assez rapidement, tous les enquêtés se sont vraiment livrés avec des paroles très fortes et vraiment d'un côté intime. Et en ça, que ce soit pour Ginov ou pour l'USPG, on a eu l'impression aussi qu'on avait agrandi la famille. Voilà, parce que justement, on n'est pas autour des sujets, on est vraiment au cœur des sujets. Et puis, on n'a pas peur de parler de comment on le vit personnellement, comment tout ça s'entrechoque, parce que ce sont aussi des vies d'entreprise et qui ne sont pas simples. Et comment ça s'articule, c'est aussi des pionniers pour l'ensemble d'entre eux, et comment les pionniers se frottent aussi au système en place et aux réactions un peu dénigrantes parfois. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a ressenti.
Alors, les enquêtés vont nous donner quelques résultats de cette enquête. Alors, je ne sais pas, Claire, Cariou, qu'est-ce qui vous a frappé déjà dans les résultats de l'enquête? Vous étiez à la réunion de restitution?
Ouais. Oui, j'y étais, ouais. La première chose qui m'a frappée, c'est que en fait, je connaissais déjà quasiment tout le monde parce que je suis consommatrice de leurs produits ou leurs services. Donc ça, c'était déjà la première chose qui était un peu frappante pour moi. Et en effet, ce sont des, enfin, nous sommes des personnes qui se jettent à corps et à cœur perdu dans les activités où on met énormément d'énergie dans ce qu'on fait et parfois en devant justifier ce qu'on fait, en devant expliquer pourquoi c'est nécessaire ce qu'on fait, alors que nos activités, à mon sens, sont c'est pas possible de ne pas aller dans ce sens-là. En fait, c'est évident que c'est ce dont on a besoin. Bon, forcément, je prêche pour ma propre paroisse, ça peut donner cette impression-là, mais...
Mais tout le monde ne le comprend pas, c'est ça. Enfin, il y a encore des gens à qui il faut expliquer pourquoi on fait ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr, y en a beaucoup à qui il faut expliquer et ça va prendre du temps. Mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'on était tous confrontés à ça, parfois, voilà, à devoir justifier en fait, de sa place et de son existence même. Mais un autre point commun, c'est aussi une volonté un peu de faire dans tous les sens du terme, enfin peu importe comment on l'orthographie, faire, mais une sacrée volonté justement pour continuer malgré tout, malgré parfois les obstacles réglementaires, institutionnels, les obstacles de mentalité, les obstacles économiques, les contraintes techniques, etc. Mais coûte que coûte, voilà, on continue tous, on fonce, on continue, on avance et ouais, on est des gens de grande volonté, je pense.
Claire Kilivic, vous parliez des difficultés, bah, d'ailleurs concrètes, hein, de voilà l'agriculture bio. Vous, les résultats de l'enquête, qu'est-ce que ça vous a inspiré qu'est-ce qui vous a inspiré le plus dans les résultats?
Tout le monde semblait avoir été touché du fait d'avoir véritablement été écouté, pas seulement entendu en fait. Et je pense que ce sentiment d'avoir une place qui compte, enfin ce sentiment en fait, c'est une forme de dignité qu'on nous rend. Ça a donné confiance aux gens dans la persévérance qu'ils pouvaient parfois peut-être perdre, parce que quand même c'est fatigant.
Oui.
On peut douter, etc. Mais il y a, comme dit Claire, il y a une vraie détermination qui est profonde. Et ça l'a encore plus assise, je pense. Et c'est encourageant, on se sent soutenu, on se sent prêté de l'attention, en fait, qui peut nous manquer quand même beaucoup, parce que les gens se réjouissent d'avoir des producteurs locaux, mais enfin... Est-ce qu'après, il y a un véritable soutien? Ça, ce n'est pas systématique quand même. Donc, c'est encourageant, c'est engageant et ça donne envie d'enquêter à nouveau et d'aller voir d'autres secteurs et d'autres personnes qui, justement, pourraient se sentir mésestimées dans leur travail et d'ailleurs considérer qu'ils ont un simple travail et pas un métier, en fait. Parce que là, en fait, ce qu'on regardait, c'était le fait que notre activité soit un véritable métier, le sens qu'on lui donnait et pas juste un emploi, quoi.
Oui, c'est ça. Et vous, donc, vous auriez envie d'enquêter, puisque vous avez été enquêté, c'est ça?
Oui, moi j'ai envie de donner la même attention que celle que j'ai reçue et surtout de découvrir bien d'autres secteurs, en fait, du secteur de l'alimentaire, en fait. Je m'intéresse à l'agro-industrie, par exemple. Je pense qu'on doit véritablement approfondir le sujet si on veut les comprendre complètement et puis après pouvoir dépasser ce qu'on considère comme des clivages aujourd'hui, quoi, et qui sont réels, il ne faut pas non plus les nier.
Donc vous rencontreriez quelqu'un qui travaille dans l'agro-industrie, par exemple?
Par exemple, ou d'autres secteurs que je méconnais encore complètement aujourd'hui. Ce sera ça l'opportunité d'enquêter.
Mmh. Alors Xavier Amon, donc cette enquête, il y a quelque chose à ajouter sur les résultats d'ensemble que n'auraient pas dit nos enquêtés?
Voilà, peut-être deux petits mots, le besoin d'expression. D'expression de ces paroles, ça a été noté par tout le monde. Comment ce qu'on dit est un peu plus audible. Et alors ça, ce qu'on est en train de faire ce matin est très précieux. Mais d'une manière générale, comment on peut aller un peu plus loin que cette enquête-là et comment on peut créer des espaces de parole ou de dialogue différents que ceux qu'on nous impose et qui nous conviennent pas. Donc ça, c'était le premier constat. La deuxième, c'est effectivement, vous l'avez évoqué toutes les deux, c'est le besoin d'être valorisé et le sentiment d'être valorisé. Et en ça, de faire plus de liens encore entre nos structures différentes, ça va devenir très important.
Et quand on dit valoriser, c'est valoriser sur tous les plans, c'est-à-dire symbolique, mais aussi financier peut-être. Enfin, est-ce que ça a été abordé, cette question des revenus, tout simplement, de l'argent? Ouais.
Oui.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. On avait la place de dire justement quelles étaient nos difficultés, pour lesquelles on a des pistes, pour lesquelles on n'en a pas. Et puis de parler de la condition aussi de bien d'autres personnes qui sont dans notre situation, en fait, qui n'avaient pas eu la chance d'être enquêtées. Donc, il s'agissait de notre expérience personnelle, mais on a aussi évidemment le regard empathique en fait, sur les autres. Et c'était important, je pense, de pouvoir aussi leur donner la place qu'ils n'ont pas encore eue. Je pense que, comme dit Xavier, en fait, l'important dans les futures enquêtes, c'est de faire sentir à tout le monde que, quelle que soit sa position, son travail actuel, etc., son avis, les valeurs qu'il porte sont importantes, en fait. Et qu'il a tout un espace de parole pour les exposer et puis pour se sentir inconditionnellement utile, quoi.
Et ils en doutent quand même, ces gens, de leur utilité. Ça me surprend, moi. Je me dis, ça doit quand même être des gens, comme c'est des gens qui justement ont des convictions fortes, comme disait Claire Cariou, c'est des gens qui sont dans le faire. Ils ont quand même des moments de doute.
J'ai aucun doute sur leur conviction. Par contre, ils peuvent être ébranlés, effectivement, dans leur activité. Par les aléas, des aléas financiers, mais les aléas de communication, les aléas d'incompréhension, et surtout le contexte. C'est-à-dire, on peut être aussi ébranlé par le contexte général. Ce qui est ressorti de l'enquête, c'est comment on fait pour que on ne se s'entre-déchire pas sur les territoires, sur les questions alimentaires, mais pas que. C'est aussi ressorti dans l'enquête. On a des gens qui ont une vision globale de ce qui ressentent globalement ce qui se passe. Et bon, voilà, il y a des présidentielles qui s'annoncent et qui ne se sentent pas bon du tout. C'est très nauséabond.
Il y a beaucoup de clivages.
C'est ressorti dans l'enquête. On a aussi besoin de se parler entre nous. On a aussi besoin de faire humanité ensemble pour ne pas tomber dans des extrêmes irréparables.
Quelles seront les traces alors de cette enquête ? Enfin, à quoi est-ce qu'elle va servir concrètement, en fait ? À part, donc, elle a changé les formations, elle a été introduite déjà dans les formations de l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, et quoi d'autre ?
Eh bien, notre travail aujourd'hui à l'USPG, ça va être de trouver une forme de restitution. Alors, il y a des formes classiques, hein, ça peut être des flyers, ça peut être une synthèse écrite et publiée. Peut-être qu'on va publier quelque chose, mais ça prend un peu de temps. Mais on pense aussi à chercher des formes d'expression plus directes, peut-être théâtrales, peut-être artistiques. Et ça, c'est un travail qu'on va en réfléchir en décembre et janvier pour trouver une forme de restitution qui soit peut-être plus accessible pour plein de monde et qu'on puisse répéter. Une autre forme d'expression, où est-ce qu'on crée un espace de discussion, de diffusion de tout ce qu'on est en train de faire à travers les enquêtes, mais aussi à travers d'autres activités de l'université. Et pourquoi pas créer des supports médiatiques à imaginer sur le thème de l'alimentation.
Il y a une émission déjà qui existe, je crois, sur une certaine radio.
Voilà. Et pour nous, c'est le début de ce mode d'expression.
Oui, ça pourrait être des chroniques, ça pourrait être autre chose. Quoi,
exactement. Hein. Mais pas tout seul, en partenariat avec les gens qui savent faire.
Tout à fait. Voilà. Des reportages in situ. Tout à fait. Nous, on transmet nos compétences, il n'y a pas de problème. Les prolongements, alors, il y aura d'autres enquêtes, enfin, qu'est-ce que... Alors,
les prolongements, effectivement, c'est que... Alors déjà, on a fait circuler tous les témoignages entre les enquêtés, et ça, on les réunira pour qu'on en reparle avec eux. Certains vont intervenir dans les formations de l'université. Claire, c'est le cas, et Juliette, c'est le cas, elle l'a déjà fait. Et puis, une autre enquête, effectivement. Je crois qu'en lien avec l'actualité... On prend souvent en parallèle de ce qu'on fait ou en contrepoint de ce qu'on fait, ce qui se passe dans l'agro-industrie. Et on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup d'agro-industrie dans notre environnement, sans parler de ceux qui travaillent dans l'agro-industrie. Et peut-être qu'on a envie d'aller à leur rencontre, parce qu'on parle en leur nom souvent, ou on leur met des mots alors qu'on ne les connaît pas. Et ils sont dans la problématique alimentaire ou dans la solution alimentaire selon le point de vue, et peut-être que c'est vers eux qu'on va aller, mais pour ça on doit former nos enquêtés à devenir enquêteurs. Voilà. Et ils seront rétribués pour ce travail là évidemment.
Claire Cariou, qu'est-ce que vous proposez comme formation à l'université? Juste une petite parenthèse.
On a travaillé avec Xavier sur des formations, une formation un peu globale déjà du bien manger dans son ensemble, avec des aspects, bien sûr, de réduction des déchets, de réflexion sur les économies qu'on peut faire, économie de matière, économie de beaucoup de choses, au final. Et puis, on a travaillé aussi sur le gaspillage alimentaire, En fait, tout ça, ça va vraiment dans le sens de la réduction des déchets. Quand j'ai commencé à réduire mes déchets, je me suis rendu compte à quel point l'alimentation était primordiale et à quel point l'alimentation, en fait, était politique. Je ne me rendais pas compte avant. Mais aujourd'hui, l'argent que je dépense dans mes courses, c'est une manière pour moi de voter et de choisir un système, un fonctionnement économique, un système en place, en fait. Et donc, c'est devenu très politique. Et donc, le zéro déchet m'a amené à ça, sous ces aspects un peu naïfs, voilà, et un petit peu à la mode. Il y a quelque chose, en fait, d'éminemment politique derrière. Et la formation, enfin, transmettre ça et former des personnes, des métiers de bouche, à ces considérations-là, pour moi, c'est essentiel.
Et vous, Juliette, vous formez à l'agriculture, enfin, c'est ça ?
Non, moi, j'ai accompagné Xavier pour accueillir des stagiaires qui étaient, qui découvraient la ferme, en fait, qui se formaient à la cuisine et qui, en fait, avaient dans la perspective comme évidence de travailler avec des producteurs en direct. Et donc, Xavier les accompagnait, enfin, les guidait. Et moi, je leur expliquais un peu comment on travaille concrètement sur le terrain, quelles sont les limites éventuelles dans un approvisionnement, etc. Comment on peut faire, en fait, pour travailler efficacement ensemble avec les restaurateurs et surtout sur le long terme, et puis que le restaurateur sache, connaisse vraiment le produit qu'il propose au client qui viendra le manger.
Oui, c'est du concret. Merci à vous trois. On retrouvera notre émission alimentaire avec l'Université des sciences et pratiques gastronomiques. La prochaine, ce sera le 13 décembre. Et il sera question d'une expérience menée dans l'un des quartiers de Quimper, à Pénars, une cantine populaire éphémère.